Albert Wallmann, de passage à Port-au-Prince, nous a rendu visite. Quel bonheur. Albert Wallmann, cela évoque tout de suite dans l'esprit des auditeurs qui se souviennent du compte-rendu que nous avons fait à ce micro du colloque de Toronto sur l'identité culturelle. Albert Wallmann, c'est le bouillant universitaire qui s'occupe depuis des années de notre créole, qui a écrit d'ailleurs des textes extrêmement intéressants là-dessus. Albert Wallmann va nous faire le point, si possible, en quelques minutes, des recherches sur le créole actuellement dans le monde et de la situation de ce que nous appelons déjà la bataille du créole dans le monde entier. Alors, bienvenue chez nous pour juste quelques heures, Albert.
Content, Vénicite.
Vous content?
Haïti chéri.
Mais on va prendre longtemps.
Ouais, malheureusement, il faut me partir demain. Demain matin pour rentrer pour, dans l'université PAM.
Alors, comment ça y est pour affaire créole, là?
Malheureusement, je n'ai pas pu rafraîchir mon créole dans ce séjour d'une journée. Je dois passer donc à la langue de Molière pour parler de choses académiques. Eh bien, je crois qu'on constate dans le monde entier un très grand essor des études créoles. Et peut-être faudrait-il expliquer les raisons profondes de cet intérêt parmi les chercheurs, surtout. Et j'ajoute que c'est un phénomène international. Alors, on a découvert que les langues créoles étaient des langues très intéressantes et très instructives pour divers aspects de la linguistique générale. D'abord, les langues créoles sont des langues très variables. Et il se pose aujourd'hui en linguistique le problème de comment décrire la variation inhérente au langage. Et c'est par les problèmes de variation qu'elle pose que les langues créoles vont pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives. Donc voici le premier point. Deuxièmement, il y a pour les créoles des aspects très intéressants de lien entre la langue et la culture, le problème de développement des langues. On peut dire qu'on constate, en observant ce qui se passe dans les territoires créolophones, ça nous permet de revoir hic et nunc le développement des grandes langues de culture telles que le français et l'anglais.
Il y a donc là un intérêt très vif ces jours-ci, mais comment se situent les choses? Par exemple, Albert Wallmann, vous avez participé au dernier colloque de Nice, où Roger Désir, Pradel Pompilus, eux aussi avaient présenté des communications. Comment se sont déroulées les choses à Nice?
Eh bien, je crois que c'est à l'honneur des organismes français, surtout l'OPELF, l'Association des universités partiellement et entièrement francophones, du Haut Comité de la langue française, d'avoir facilité cette rencontre internationale. Enfin, je crois que ce colloque montre qu'on vient de redécouvrir le créole en France. Il faut dire que il n'y a pas de centre de recherche sur le créole en France, qui est curieux étant donné qu'il y a 3 départements d'outre-mer, ou peut-être 4 départements d'outre-mer, où l'on parle créole, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Et les Français commencent à s'intéresser au créole. Je crois ceci, c'est le phénomène de la renaissance ethnique en France. Les Français ont découvert qu'ils peuvent, tout en étant Français, être un peu différents. On peut être breton et Français, méridional et Français, corse et Français, et évidemment, créolophone et Français.
En d'autres termes, nous assistons à une sorte de retour du bâton contre le jacobinisme.
Exactement, c'est un retour aux sources profondes, aux sources culturelles. Et d'ailleurs, je lisais dans l'avion d'Air France qui m'a mené ici un article, une interview avec Jacques Médecin, le maire de Nice, qui est ministre du tourisme et qui voudrait que les Français reprennent contact avec leurs racines. Et donc je crois que ce mouvement pour le créole, en France du moins, est une manifestation de ce mouvement. En tout cas, je crois que c'est ce qui a facilité cette première rencontre internationale des spécialistes de créole français. Il faut quand même ajouter que les études créoles ont un grand essor hors de France, surtout en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne fédérale.
Aussi, dans des pays comme l'Angleterre et l'Allemagne fédérale, on s'intéresse aux études créoles. Pourriez-vous nous parler de cet intérêt anglo-saxon, européen pour les études créoles.
Oui, d'abord, il faut dire que le père des études créoles est un universitaire, un professeur allemand, Hugo Schuchart, qui était le premier à s'intéresser sérieusement à ces langues, parce qu'il y a, si vous voulez, un tabou, un préjugé. On dit que les créoles ne sont pas de véritables langues, ce sont des langues abattardies, corrompues, et que tout universitaire qui se respecte ne peut s'intéresser à ces choses. Enfin, Hugo Schuchart, vers 1890, était le premier à dire ce sont des langues très intéressantes qui peuvent nous renseigner sur l'histoire des langues et qui peuvent nous aider à formuler de meilleures théories pour expliquer ce phénomène très difficile à comprendre qu'est le langage humain. Donc, si vous voulez, cet intérêt au créole en Allemagne n'est qu'un retour aux sources, aux racines.
De la formation des langues.
De la formation des intérêts de la recherche linguistique. On constate que les créoles, par leur complexité, nous permettent, sont plus intéressantes que des langues telles que le français, par exemple.
Je comprends. Donc, intérêt dès l'origine des universitaires allemands. En Angleterre aussi, dans le monde britannique, il y a eu aussi des chercheurs qui se sont penchés sur l'étude des langues créoles.
Oui, il y a par exemple Robert Lepage, qui est de Jersey, l'île de Jersey, et qui a passé de nombreuses années aux Antilles britanniques, à l'université de West Indies, à la Jamaïque, et qui a lancé là un mouvement pour l'étude des créoles à base anglaise. Je dois dire que la meilleure recherche, la recherche la plus sophistiquée, se fait dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Il y a plusieurs centres de recherche créole dans le monde. Je dirais il y a l'université de York en Angleterre, il y a l'université d'Hawaï, qui est un pays créolophone. On parle, il y a le Pidgin English d'Hawaï, il y a le créole anglais d'Hawaï. Et aux États-Unis, ma propre université, l'université Indiana, et enfin quelques centre ici et là. Donc, je crois qu'on pourrait facilement, dans les pays dits anglo-saxons, aligner une cinquantaine de chercheurs.
Vous-même, Albert Waldman, depuis quelques années déjà, vous vous êtes beaucoup intéressé à la question du créole. Vous avez eu des publications importantes dans ce domaine. Et particulièrement, vous travaillez à des recherches sur le créole haïtien, avec d'ailleurs des chercheurs haïtien. Pourriez-vous nous faire le point de ces recherches, Albert Waldman?
Bien, j'ai débuté dans le créole. Je dois dire que mon maître est un des premiers grands créolistes américains, Robert Hall Jr., qui est très bien connu en Haïti. C'est lui qui m'a inspiré à choisir cette voie. Et il faut dire, je dois ajouter que je suis vraiment spécialiste de linguistique française. Il ne faut pas oublier. Et j'ai commencé en tant que linguiste appliqué. J'estime que pour étudier une langue, il faut d'abord essayer de la parler. Et la meilleure façon d'apprendre à parler une langue, c'est d'essayer de l'enseigner aux autres et de préparer une méthode. Donc j'ai commencé par la préparation d'une méthode rendant accessible le créole aux anglophones. J'ai travaillé beaucoup avec des collègues haïtiens, le regretté Charles Fernand Pressoir, avec mon très bon ami Pradel Pompilus, Roger Désir, etc. Et depuis une bonne douzaine d'années, je suis venu en Haïti la première fois en 1964-65. Et mes collègues haïtiens m'ont beaucoup aidé à découvrir cette langue très riche et très belle qu'est le créole. Ensuite, bien sûr, j'ai poussé mes études linguistiques. Je dois souligner que le créole pose des problèmes très complexes de description. Il y a des phénomènes très intéressants dans le créole qui sont très difficiles à saisir. Actuellement, je travaille avec des collègues haïtiens à l'élaboration d'un véritable dictionnaire créole-créole. Tout bon dictionnaire s'adresse à ses locuteurs, n'est-ce pas? Je crois que c'est une notion tant soit peu colonialiste de penser qu'il n'y aurait de dictionnaire que français-créole ou anglais-créole. Un véritable dictionnaire créole doit être un dictionnaire monolingue, s'adressant aux locuteurs, leur donnant des précisions sur la variation dans leur propre langue, sur les relations sémantiques entre les mots, et aussi des renseignements sur les relations entre leur langue et leur culture.
C'est donc à ce travail que vous donnez depuis quelque temps ce dictionnaire créole-créole. Mais c'est un gros travail, c'est un énorme travail. Il est vrai que vous avez dû apprendre entre-temps, et je me permets, après avoir reçu d'Albert Waldman les nouvelles créoles du monde, lui donner des nouvelles de notre monde, des nouvelles locales. Il est vrai qu'entre-temps, vous devez avoir reçu le petit dictionnaire créole publié par M. Bentolila et M. Pierre Vernet aux éditions Caraïbes. Vous l'avez feuilleté, Albert Waldman ?
Bien sûr, puisque je m'intéresse à la lexicographie créole. J'étais d'ailleurs très heureux que mon ami Bentolila me l'expédiait dès que cet ouvrage est sorti des presses Caraïbes. Et enfin, je lui suis reconnaissant de nous avoir donné un autre outil. Évidemment, c'est un travail qui vise au court terme, n'est-ce pas, à donner aux lecteurs français, aux chercheurs français, une certaine idée de ce que c'est que le créole. Et tout comme, par exemple, le dictionnaire de Fenn, c'est un ouvrage qui nous permet d'aller plus loin.
Mais qui quand même, comme vous venez de le dire, est à court terme. Parce que d'abord, le nombre d'éléments envisagés est très restreint. C'est un petit dictionnaire. La région qu'ils ont investiguée pour ce dictionnaire est elle aussi bien limitée. C'est la région de Saint-Marc. Tout le monde sait que les chercheurs avaient pendant un temps très court investigué dans la région de Saint-Marc. Et que troisièmement, le champ sémantique, si j'ose dire, puisque l'accumulation de mots n'est pas considérable.
Oui. D'ailleurs, Alain Bentolila lui-même, dans sa préface, est fort modeste, n'est-ce pas ? Il explique qu'il s'agit ici, en fait, du dépouillement d'un corpus, c'est-à-dire de textes enregistrés, je ne sais pas combien d'heures, mais enfin, peut-être une dizaine d'heures d'enregistrement, dans une seule région d'Haïti. Ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est d'avoir des enregistrements dans diverses régions d'Haïti. Ensuite, je crois que une autre, disons, limite de cet ouvrage, c'est qu'il n'y a aucun renseignement sur cette très grande variété stylistique qu'il y a en créole, n'est-ce pas ? On ne sait pas, est-ce que c'est un créole, parce que le créole a une très grande gamme, le créole, de plus en plus, se répand dans de nouveaux domaines, comme toute langue naturelle. Le créole développe diverses variétés. Nous savons que le français, il y a le français argotique, il y a le français très soutenu, toute une gamme. Toute langue a un système de style approprié à certaines situations. Or, cela existe. Le créole aussi. Donc, il faudrait, dans l'élaboration d'un dictionnaire, recueillir des textes dans diverses régions d'Haïti, puisque nous savons que le créole ne se parle pas de la même façon au Cap-Haïtien qu'au Caï, et certainement pas au Prince. Qui a le créole rec ou le créole feuille, le créole de la ville. Et je crois que pour un véritable dictionnaire, il nous faudra faire des études très détaillées sur le terrain, avoir une très grande gamme d'échantillons. Si vous voulez, le travail de Bentolila est intéressant dans la mesure où il part d'un corpus très précis. On peut dire, voici comment se parle un créole moyen dans la région des Gonaïves. Mais il faut continuer ce travail.
Et ce travail, vous le continuez avec les chercheurs haïtiens. Et si je me souviens bien notre précédente interview, les informations recueillies par ces chercheurs sur le terrain devaient alimenter, si je me souviens bien, un ordinateur, et il devait y avoir un travail de synthèse au niveau de l'ordinateur pour permettre une vraie collection de toutes ces données. C'est bien cela, Albert Waldman.
Oui, si vous voulez, un travail, l'élaboration d'un dictionnaire est un travail qui doit être à long terme, à longue haleine. Ça doit se situer sur une période de 10 ans. Et il faut, disons, des approches multiples. Il faut d'abord faire ce qu'ont fait Vernet et Bentolila, c'est-à-dire examiner des échantillons, une grande variété d'échantillons. Deuxièmement, je crois qu'il faut se servir de l'intuition des locuteurs. Mes collègues haïtiens, Pradel Pompilus, Roger Désir, Carrier Poultre et autres, Maurice Jean-Baptiste, ont une très longue expérience du créole, non seulement une très longue expérience du créole en tant que créolophone, créolisant, mais aussi des gens qui se sont posés beaucoup de problèmes qui ont essayé de traduire des textes en créole, qui ont fait des œuvres pédagogiques. Donc, ils se sont posé beaucoup des problèmes. Alors, je crois qu'il faut faire appel à ces intuitions. Alors, nous trouvons dans cette approche multiple, avec une masse de documents. Et aujourd'hui, pour traiter une grande masse de documents, il faut absolument avoir un traitement informatisé. Alors, c'est à quoi nous visons. Bien sûr, un terminal d'ordinateur est très coûteux, et cela ne pourra être entrepris que si nous pouvons recevoir des crédits. Enfin, je suis assez optimiste pour espérer que ces crédits seront accessibles et que l'on pourra, à partir de l'année prochaine, commencer un traitement informatisé.
Mais revenons à ce dictionnaire, une nouveauté qui a beaucoup surpris ses éventuels utilisateurs et qui a étonné ceux qui, depuis de longues années, s'occupent de l'enseignement en créole, de l'alphabétisation en créole, c'est justement la graphie, nouvelle graphie proposée par ce dictionnaire et déjà utilisée par toute une équipe d'alphabétisateurs. Vous avez feuilleté ce dictionnaire, Albert Wallmann, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle graphie ?
Bon, d'abord, je trouve que lorsque je parle de créole, j'aime bien citer un dicton créole, « Zafé cabrit, c'est pas Zafé mouton, je suis chercheur étranger ». J'hésite à m'immiscer dans des questions qui sont des questions que doivent se poser les collègues haïtiens. Enfin, avec cette réserve, je crois qu'il est important que tous ceux qui s'intéressent au créole constatent que les différentes graphies proposées ces dernières années pour le créole diffèrent très peu. Et d'ailleurs, il y a une très longue histoire de la graphie des orthographes créoles. La première orthographe phonétique pour le créole n'a pas été l'œuvre des anglo-saxons McConnell et Laubach. C'était un éminent juriste et juge français à Cayenne, en Guyane, qui, en 1870, a proposé la première orthographe phonétique.
Tiens, tiens.
Qui, d'ailleurs, ce qui est fort curieux, ressemble beaucoup à ce qu'on appelle l'orthographe de Lonac. Il est, à mon avis, regrettable que lorsque McConnell et Laubach ont envisagé une graphie qui puisse rendre le créole accessible à ses locuteurs, qui leur permette d'apprendre à lire leur langue, à l'écrire rapidement.
Donc, McConnell et Laubach établissent leur orthographe et vous regrettez qu'il n'ait pas eu des informations concernant cette première graphie créole établie par un juge français de Cayenne. C'est bien cela, Albert Wallmann.
C'est ça. Saint-Quentin a élaboré son orthographe vers 1870, n'est-ce pas ? Donc cela a antédaté le travail de McConnell de 70 ans.
Oui.
Bon. Alors, si vous voulez, je crois que... Enfin, vous connaissez les querelles, les polémiques sur l'orthographe, les soi-disant lettres anglo-saxonnes.
W, par exemple.
L'Y, n'est-ce pas ? On a vu dans cette orthographe une tentative d'impérialisme culturel américain pour éradiquer le français, le remplacer par l'anglais. Bon. On n'a qu'à examiner Saint-Quentin pour voir combien ces premiers arguments étaient faux. En tout cas, il y a eu toute une longue série de modifications de l'orthographe McConnell-Laubach. D'abord, celle de notre le regretté Charles Fernand Pressoir, qui a, je crois, été plus réaliste dans la façon de noter les voyelles nasales, n'est-ce pas, en écrivant un IN en AN en ON. C'est une façon très économique de faire les choses. Et nous avons, dans ce qu'on appelle l'orthographe de Lonaac, un outil qui a quand même subi une élaboration au cours de 30 ans.
Et l'épreuve de la pratique.
Et surtout, l'épreuve de la pratique. C'est-à-dire que les collègues haïtiens qui se servent aujourd'hui de l'orthographe de Lonaac ont une très longue expérience. Ils savent se servir de l'orthographe sans faire de faute. Et évidemment, je crois qu'il est important de ne pas se figer sur certaines positions en ce qui concerne l'orthographe. Une orthographe, après tout, l'orthographe créole est jeune. Et il ne faut pas essayer d'imposer une certaine orthographe. Je crois que tous ceux qui se servent de l'orthographe de l'ONAC ont constaté certaines faiblesses. J'ai moi-même fait certaines prépositions. Encore, ça fait cabri, c'est pas ça fait mouton. Par exemple, j'estime que en écrivant un EN, on évite l'emploi de tirets à tort et à travers.
Et le doublement de la consonne.
Et le doublement de la consonne et d'autres petits problèmes. Donc, je crois qu'il est un peu regrettable que ceux qui sont nouvellement venus dans un domaine ne tiennent pas compte de l'acquis, de l'expérience. C'est-à-dire, personnellement, dans un ouvrage tel que ce dictionnaire, moi-même, j'aurais adopté l'orthographe de l'ONAC, qui est pratiquée, qui est connue non seulement par les scripteurs, ceux qui écrivent en créole, mais aussi une très grande masse de nouvellement
alphabétisés.
Et je crois que cela peut faire tort, puisque les gens, étant donné que l'orthographe française est très contraignante, estiment qu'une orthographe est quelque chose qu'il faut longtemps acquérir. Or, et qui tendent à maximaliser les différences. Et ce qu'il faut faire, c'est
minimiser
ces différences, montrer que l'orthographe, cette nouvelle orthographe, diffère très peu de celle de l'ONAC. Il y a, disons, 3 ou 4 petits changements à faire. Et personnellement, je crois que lorsqu'un outil est bien rodé, eh bien, il faut s'en servir. Quitte, bien sûr, à avoir des réunions entre spécialistes ou
pour l'améliorer.
Je crois qu'il devrait y avoir un travail d'amélioration.
Eh bien, je crois qu'il y a eu, et c'est la deuxième nouvelle que je voudrais vous transmettre, c'est que après la parution du dictionnaire, après la mise au service du public de l'expérience de Côte de Fer, il y a eu une réunion entre des spécialistes français liés aux Français ou seulement des créolisants et des créolophones spécialistes en alphabétisation. Et je crois que, en définitive, un long travail de coopération, la vraie coopération, permettra aux deux graphies de se fondre et de corriger les petites erreurs de l'orthographe de l'ONAC, tout en rectifiant les grosses innovations inutiles ou inefficaces de l'orthographe dite de Paris 5, Descartes ou Bentolila. Je crois que le mouvement est en train et cette rencontre sera fructueuse. Voilà donc quelque chose qui nous apporte de l'espoir. Mais nous en étions tout à l'heure avec Albert Vanneman aux Nouvelles du Monde. Il nous a parlé du colloque de Nice. Et il n'y a pas que le colloque de Nice. Il y a d'autres rencontres en préparation, professeur Vanneman.
Oui, il y aura cet été à Vienne, pour le Congrès international des linguistes, il y aura une séance sur le créole. Il y a aussi un ouvrage qui sera publié aux presses de mon université, l'Université d'Indiana, un ouvrage dont je vous donne le titre anglais, Pidgin and Creole Linguistics, linguistique pidgin et créole. Il y a un travail collaboratif. En cours également, il y a un ouvrage très intéressant, Le français hors de France, le premier ouvrage relativement scientifique sur le français hors de France, où figurera un article sur le français en Haïti de Pradel Pompilus, qui doit sortir bientôt chez Champion à Paris. Ouvrage, j'ajouterai, subventionné par le ministère de la Coopération de France.
Albert Vanneman, vous venez de m'étonner là. Je vais vous dire pourquoi, je vais être franc et carré avec vous. Vous permettez que je vous dise les choses carrément?
Oui. Bien sûr.
Bon, alors écoutez-moi. Vous savez très bien, comme on dit, ça fait cabrit, pas ça fait mouton, mais Albert Vanneman, l'olvinen haïtien qu'on est, ni ça fait cabrit, ni ça fait mouton. Et vous savez parfaitement qu'il y a une fausse querelle, une très fausse querelle entre les partisans de l'enseignement du créole et de l'éducation en créole et les partisans de l'enseignement en français. En sous-jacence, il y a, paraît-il, une lutte d'influence franco-américaine. Et dans certains milieux, je ne vous révèle rien, je ne vous révèle aucun secret, on vous accuse d'être un affreux agent de l'impérialisme américain parce que vous êtes partisan du créole. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question ?
Oui, évidemment. D'abord en soulignant que je suis spécialiste de linguistique française et je suis enseignant de français aux États-Unis.
Ah, vous êtes enseignant de français aux États-Unis?
Oui, d'ailleurs, je suis l'auteur de la méthode la plus répandue au niveau secondaire aux États-Unis, l'auteur principal.
Une méthode de français.
Méthode de français qui est usitée, employée par au moins 30% des lycéens qui apprennent le français aux États-Unis. Ensuite, une méthode, plusieurs méthodes pour le niveau universitaire. Vous savez aussi, ayant participé au troisième colloque Identité culturelle et francophonie dans les Amériques, que je milite pour la francophonie là où elle est une langue brimée, d'une minorité linguistique en Louisiane, dans l'Ontario, n'est-ce pas ?
Absolument.
Et aussi, bon, comme cela, je vous indiquais que j'ai préparé un ouvrage collectif, Le Français de France, premier ouvrage scientifique, subventionné par le ministère de la Coopération et l'Agence de coopération culturelle et technique. Par ailleurs, mon ouvrage qui, sur le créole, non pas celui d'Haïti, mais le créole français en général, le franco-créole, qui s'appelle Le créole, structure, statut et origine, est subventionné en partie par l'Université de Nice. Alors, on pourrait se demander pourquoi le ministère de la Coopération subventionnerait les ouvrages de quelqu'un qui, n'est-ce pas, représente l'impérialisme américain.
Bon, voilà qui est acquis. Alors, Albert Vandemann, avant de terminer, je ne vais pas vous mettre sur le grill trop longtemps. D'après vous, quel est l'avenir de toutes ces recherches? Vers quoi vont-elles déboucher? Et dernière question, croyez-vous réellement à un avenir du créole en Haïti comme langue de développement et comme langue de civilisation?
Bon, la première question qui s'adresse aux spécialistes. Eh bien, je crois que nous constatons un grand essor des études créoles. Il y aura un très grand nombre de spécialistes et que le créole sera examiné, recevra le même type d'éclairage que les grandes langues de culture telles que l'anglais et le français. Ces types de recherches, n'est-ce pas, pourront alimenter certains travaux d'application pratique. Je crois qu'il se pose en Haïti le problème qui est un problème éducatif, qui est celui comment faire acquérir à des enfants créolophones une langue, je ne dirais pas une langue étrangère, une langue quasi étrangère.
Une langue seconde,
même parce que le créole et le français sont très liés, imbriqués en Haïti. Je crois qu'il est faux de présenter l'acquisition du français par les petits Haïtiens comme l'acquisition du français langue étrangère. Alors, je crois que dans l'état actuel des choses, à moins d'avoir des milliards et des milliards de dollars pour enseigner le français aux petits Haïtiens, je crois qu'il est plus pratique, plus efficace de commencer le travail d'éducation dans les petites classes, peut-être par le créole, et ensuite de passer au français. Je crois qu'il faut souligner que tout alphabétisé en créole est un apprenant de français potentiel, est un lecteur de français potentiel.
Mais la situation ne se présente pas d'une façon analogue dans certains pays où il existe, comme en Suisse alémanique, un dialecte, une langue populaire, proche de la langue sophistiquée. Et l'enseignement ne suit-il pas certains modèles qui pourraient être appliqués en Haïti, M. Vandemann ?
Oui, personnellement, j'estime que le modèle de la Suisse alémanique est un meilleur modèle pour l'enseignement du français en Haïti, parce que nous avons là deux langues, enfin, il s'agit de deux dialectes, mm-hmm, assez différents. Et en Suisse alémanique, vous savez que la Suisse est un pays très prospère, après la Suède, le pays le plus riche d'Europe. Eh bien, en Suisse alémanique, le dialecte, le Schweizerdeutsch, n'est pas exclu de la salle de classe. L'enfant passe à l'acquisition de l'allemand standard graduellement au cours de peut-être 6 ans d'enseignement. Je n'ai pas, bien sûr, les détails, mais je crois qu'il serait très intéressant pour ceux qui s'intéressent aux problèmes éducatifs en Haïti d'essayer d'avoir une sorte de table ronde où seraient présentés divers modèles, celui de la Suisse alémanique, l'enseignement de l'espagnol dans certains pays tels que le Pérou et la Bolivie, c'est pas l'enseignement de l'espagnol au locuteur de Quechua, l'enseignement bilingue tel qu'il est pratiqué en Louisiane et au Canada, et bien sûr l'enseignement du français langue étrangère. Je crois qu'il faut trouver un nouveau modèle. Oui, et c'est, je crois, là où nos autres moutons, nos autres chercheurs étrangers, qui avons une sympathie pour le peuple haïtien, pour les collègues haïtiens. C'est là, je crois, où nous pouvons contribuer.
Alors, la dernière question, la troisième, c'était, le créole peut-il devenir, selon vous, une langue de développement, une langue de civilisation?
Bien sûr, toute langue a ce potentiel. Après tout, nous savons que c'est de cette façon qu'a été forgé cet instrument de culture qu'est le français. Le français n'a pas toujours été langue de culture. Et seulement, le français s'est forgé au cours de 5-6 siècles. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est peut-on forger cet instrument? Peut-on faire du créole cet instrument? Et ensuite, doit-on, dans l'état actuel des choses, le faire? C'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Simplement poser le problème. Puisqu'il existe en Haïti une langue de prestige culturel,
international,
le français, peut-être, il n'est pas question, me semble-t-il, en Haïti, de remplacer le français par le créole. Il s'agit, me semble-t-il, la question qui se pose, c'est le créole peut-il servir de langue seconde, de langue intermédiaire, facilitant ce passage au français. Mais c'est un passage difficile et je crois qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à ce problème de passage. C'est un passage qui peut être et compliqué et périlleux.
Eh bien voilà, dernier mot, le mot de la fin d'Albert Wallmann, à qui nous allons dire merci de son intervention de ce matin. Au revoir.